ce matin vous parler de quelque chose que j'ai eu l'occasion de partager il y a quelques mois en arrière. Alors je priais, j'ai deux messages sur mon cœur en ce moment, le Seigneur m'a dit « partage là-dessus pour aujourd'hui ». Alors je ne vous connais pas tous et j'espère simplement que la parole de Dieu nous fera tous du bien, hein, et à vous également. Je veux vous parler de quelque chose, et pour ceux qui ont entendu déjà ce message il y a quelques peu de mois, je crois il y a 5 ou 6 mois en arrière, je vous ai partagé quelque chose là-dessus, eh bien, ça sera qu'un rafraîchissement. Dans Jérémie, au chapitre 48, je vous ai dit Jérémie, non ? Oui. Regardez, dans Jérémie, au chapitre 48, le Seigneur va nous dire quelque chose d'intéressant. Et je veux parler ce matin, et au travers même de cet enregistrement, eh bien, à tous ceux qui vont écouter ce message, qui, peut-être membres du corps de Christ, comprennent pas par quelle souffrance ils passent et pourquoi ils souffrent autant, que ce soit par la maladie, la perte d'un être cher, des couples qui divorcent, voir ce que j'entends pas dans mon téléphone, qui sont au bord de la séparation, etc. Des sujets de souffrance, il y en a, tout le monde a des sujets de souffrance sur Terre. Je ne connais pas quelqu'un qui ait jamais souffert sur Terre ou qui ne souffrira jamais. Ça n'existe pas. La souffrance va faire partie de notre cheminement terrestre, hein, et le Seigneur le sait. Mais au sein même de ces sujets de souffrance, ça peut être, on l'a vu dimanche dernier, un enfant qui va quitter le domicile, qui part, et tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi Seigneur? Mais qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Etc. Des sujets de souffrance et des questionnements sans réponse, tout le monde en a. Et si vous en avez, vous êtes parfaitement normaux ce matin. Mais le Seigneur, en travers de ça, veut nous expliquer ce qu'il va créer en nous, au travers de cette souffrance et de ce cheminement. Qu'est-ce qui peut être spirituel? Qu'est-ce qui peut être à l'honneur de Christ là-dedans? Pourquoi le Seigneur permet cela? Est-ce que la souffrance a un but? Est-ce qu'elle a une raison? Est-ce que c'est pas moi qui ai pas vu qu'il y avait une solution, que je n'ai pas su la prendre? Et c'est très important ce que je vous dis. Tu es dans une société où la souffrance est devenue le sujet tabou. Allez, dans n'importe quel bar, c'est pas la pornographie, hein, c'est pas la drogue, hein, c'est pas l'adultère, hein, ça, tout le monde en rigole et tout le monde banalise. Mais si tu souffres, excusez-moi du mot, si tu souffres, t'es bête. Parce que tu peux faire la même chose sans souffrir. Tu appuies sur un bouton, tu as le paquet de chewing-gum tout de suite. Non, ça te plaît pas ce film, tu zappes, je passe à l'autre côté. Pourquoi souffrir? Non, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Pourquoi la souffrance? Le sujet tabou, c'est la souffrance. Or, Dieu dira à Paul, il a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir. Il a dit à Ananias, tu vas voir ce qu'il va souffrir pour mon nom. Bien aimé, la vie de disciple, ça va passer aussi. Et notre maturité de disciple, puis-je vous rappeler, comme la parole nous l'a dit ce matin, une parole nous a été donnée par l'Esprit ce matin, que Dieu façonnait de l'argile. Nous sommes ces vases d'argile, hein, et Dieu nous façonne tendrement. Si l'argile pouvait hurler, de temps en temps, dire « Oh là là, la pression est trop forte des mains, ça me fait mal, etc. etc. » Jérémie, chapitre 48, verset 11. La Bible nous dit là, « Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. » Je crois que l'Esprit de Dieu nous a parlé de sa vie ce matin. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il resté et son odeur ne s'est-elle pas changée. C'est pourquoi les jours viendront, verset 12 dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses vases et feront sauter ses oudres. Moab aura honte, etc. etc. Qui c'était Moab, pour comprendre? Moab, les Moabites, c'est comme les Ammonites, c'est les enfants de Lot. Je n'ai pas le temps de vous parler des ennemis d'Israël ce matin, mais depuis les Philistins, des Moabites, Amalek, etc., etc., tous, ils ont une raison, un jour je prêcherai là-dessus, ils ont une entité spirituelle. Je dirais que, on dit souvent sur Terre, tel père, tel fils. D'accord? Et si vous regardez, par exemple, tu regardes, tous les peuples arabes ne sont pas les mêmes. Je connais bien le Moyen-Orient, pas les mêmes. Tu verras, par exemple, tu prends par exemple les Irakiens, il y a, avant leur guerre, les pauvres, il y avait une haine contre Israël. Si je peux t'envoyer des scuds, si je peux te faire exploser, je vais te faire exploser. Vous savez, pour haïr quelqu'un comme ça, il faut déjà avoir de l'énergie, hein. C'est plus facile d'aimer que de haïr en permanence, vous comprenez? Tu prends par exemple les Jordaniens, c'est aussi les Arabes. Ils sont quand même plus cool avec Israël. Pourquoi? C'est très simple. Les Jordaniens, les descendants, c'était les descendants de Lot, c'est les cousins germains d'Abraham. C'est tout. Les Irakiens, l'Irak, c'est entre l'Euphrate, hein, c'est la première malédiction qui va tomber sur la tête du diable en Genèse. Tu maudiras, tu vas mordre le pied de la, le talon de la postérité de la femme, Élise, mais il va t'écraser la tête. Tu vas marcher, tu vas ramper. Et Dieu maudit là le serpent diable, c'est en Irak que ça se passe. C'est devenu un gigantesque désert. Bien sûr, je sais lire ma Bible. Dieu est capable de faire refleurir les déserts. Cette malédiction-là, elle disparaît quand Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis un planteur d'église. C'est pas la couleur de la peau, c'est pas le truc. C'est en Jésus-Christ que toute malédiction disparaît. Dieu aime les Arabes parfaitement, hein, mais les créatures nouvelles qu'il va créer avec un esprit nouveau, l'esprit de Christ en eux. Amen. Et nous devons les aimer aussi. Mais tant qu'ils ne sont pas convertis, ils sont sous cette malédiction. Les Moabites maintenant. Quels sont les Moabites? Les Moabites, c'était les enfants de la. Ils représentent dans l'Église le danger, l'ennemi. C'est le fruit du raisonnement humain. Couchons avec notre père, Lot, pour avoir une postérité. T'as pris ça où? Dans les cours d'éducation sexuelle des lycées de Sodome? T'as pris ça où? Où c'est que tu couches avec ton père? C'est de l'inceste, ça. Tu crois que Dieu a besoin de tes petits bras? Tu couches avec ton père pour assurer une postérité. Et ils vont représenter, les Moabites et les Ammonites, le fruit du raisonnement humain. Il faut que j'aide un peu Dieu. Il ne doit pas entendre mes prières. Oh, si j'étais spirituel comme le pasteur, peut-être. C'est pourquoi il ne répond pas depuis. Mes souffrances sont tellement grandes. Pourquoi il ne répond pas? C'est que j'ai du péché. Oh, j'ai dû trop en faire dans ma vie passée. Et ça, on s'en fait des petits raisonnements. Il faut voir. Et c'est normal. On est doué. Je voudrais vous dire ce matin, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai vu ce mal dans l'église, partout un peu où je passe, où on veut tout de suite. Surtout quand on souffre, et je comprends tout à fait, hein. C'est pas le club des masochistes ici, hein. Je suis pris pour votre bonheur, hein. Dieu aussi, hein. Dieu veut pas que nous souffrions. Mais quand même, il y a une croissance que Dieu va faire en nous, qui va passer par ces silences. Ce matin, je voudrais vous parler de comment gérer les silences de Dieu dans vos épreuves. Oui, oui. Je voudrais vous dire que des fois, le plus grand des... Tu peux courir, et je l'ai vu faire même dans cette assemblée. Je ne vais pas citer des noms, jamais. Mais des gens qui étaient tellement souffrés d'après eux, hein, qui ont couru tous les plus grands séminaires de tous les prophètes de France et de Navarre. Bien sûr, autrefois dans ma Bible, sur le 1 Corinthiens 11, les prophètes prophétisaient gratuitement, bien sûr. Il n'y avait ni panier d'offrande à l'entrée, ni au milieu, ni à la sortie. Hein. Dans l'Église, et les autres jugeaient. Pas le prophète, ils jugeaient la teneur de la spiritualité de la prophétie. Nous prophétisons en partie, hein, d'accord. Et les autres, ils jugent. Non, maintenant, on fait mieux que mieux. Maintenant, je réunis tous les chrétiens un peu qui s'ennuient par Facebook et machin, hein, dans un hôtel, machin, là-bas, ceci, cela. Hein, et puis, à tous, j'ai prophétisé. Toi, là-bas, tu seras reine d'Angleterre. Toi, là-bas, tu seras guéri ton cancer. Toi, tu vas épouser Miss Monde. Et toi, bien sûr, parce que si tu prophétises du malheur, il n'y a plus personne qui revient au séminaire d'après. J'ai vu ça. J'ai été invité par des pasteurs en Suisse pour régler cette affaire avec des prophètes internationaux devant toute une jeunesse qui était minée. Je voudrais vous dire, bien-aimé, je l'ai appris dans mon chemin. C'est le chemin du calvaire par lequel nous passons tous. C'est ça le chemin de la croix. C'est la croix que nous prêchons. Qu'il y a eu des fois, je me brûlais de souffrance tellement j'avais besoin d'une réponse rapide et qui ne m'a pas répondu. Et je voudrais vous dire que des fois, même dans vos souffrances, tout le monde va recevoir des prophéties, hein, sauf toi. Tu vas dire, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu m'aime plus? Ou alors, il m'a abandonné? Ou j'ai dû pécher? Compte sur le diable pour t'enterrer vivant, carrément. Non, tu n'as pas péché, mon frère, ma sœur. Tu es parfaitement normal. Moab reposait sur sa vie. Hein, il avait ce mauvais goût. Mais je vais le transvaser. Et quand Dieu nous transvase, des fois, ça fait mal. Vous savez comment on fait un bon vin? Avant, j'avais un viticulteur aussi. Il n'est plus là, maintenant. Ce matin, il n'est pas là, quoi. Et bien, autrefois, on mettait dans les tonneaux. Maintenant, ça se fait autrement, chimiquement. Hein. J'ai vu la cave de Gilles aussi, de notre frère Alain Josso. Là, ça se fait autrement. Mais on mettait le vin dans des tonneaux. Et de chêne, ça avait un bon goût de chêne, et on mettait le vin nouveau dedans, le vigneron, il éteignait la cave, il partait, et puis un an après, il revenait au tonneau, il buvait, hein. Ah, il recrache bien sûr, hein. Non, c'est encore trop vert, passé encore un an. Tout. Mais imaginez que le vin, qui est une matière organique vivante, puisqu'il se transforme, le vin puisse parler. Moi, j'aime bien me faire des petits films dans ma tête tout le temps, à la nuit, à la place de dormir, je me fais des films. Et je me dis, bon, voilà que le vin, il peut parler. Mais le vin, lui, il a envie d'être bu. Le chrétien, il a envie d'être cru. Le vin, il a envie d'être bu. Le steak, il a envie d'être mangé. Toute chose à sa nature et ses envies. Et le vin, il a envie d'être bu. Et alors, il a allumé la lumière, enfin, je vais jouer mon rôle dans cette société. Hein, je vais gagner le cœur des hommes, je vais être bu. Et au fur et à mesure qu'il vieillit, il devint du bon vin parce que la lie repose au fond. La lie, c'est toutes les impuretés, tout ce qui n'y a pas. Et on le change souvent. Et des fois, il faut attendre d'innombrables années. Et on réteint la lumière et le vin, il attend. On dirait qu'il ne se passe rien. Je souffre pour rien dans ce tonneau. Je vais dans une carafe et de bu, mais rien. Et au travers de cette attente, de cette souffrance, de cette patience, eh bien, il y a une maturité du vin qui se fait bien en lui de même dans nos vies. Et Et là, Moab, il avait gardé son vin. Alors Dieu dit, voilà, ben, je vais changer Moab, hein, comme Dieu dit qu'il est pur, l'or, hein, cette fois, il nous est pur, on va passer par toutes sortes d'épreuves, eh bien, il va nous transvaser. Et peut-être vous êtes dans un temps de transvasement, dans un temps où je vivais correctement, j'étais bien, et puis je ne comprends plus rien de ce qui m'arrive maintenant, et pourquoi je souffre autant. Et vous savez, la tentation de forger un message, même quand on est prophète ou quand on exerce la parole de conscience, à certaines personnes, elles ont tellement, leur circonstance est tellement douloureuse, qu'elles sont tellement critiques par moment même, qu'elles sont persuadées qu'elles doivent recevoir absolument une parole de la part de Dieu. Et je vous dis ce matin qu'il y a des moments où il n'y aura pas de parole de la part de Dieu, même par le prophète le plus célèbre qui soit, tu n'auras rien. Et pourtant, tu es aimé de Dieu, et tu n'es pas abandonné de Dieu, et tu n'es pas un chrétien de deuxième catégorie. Regardez 1 Samuel, chapitre 13, verset 12. Je veux qu'on regarde ça ce matin, que vous puissiez partir d'ici, même si vous croyez que Dieu ne vous parle pas comme aux autres, ou que vous êtes dans un temps de sécheresse, de désert, ça a un sens devant Dieu, vous n'êtes pas l'objet du hasard, vous n'êtes point abandonné de Dieu, qui que vous soyez. 1 Samuel, chapitre 13, verset 12. En gros, je fais court, Saül, regardez au verset premier, Saül était âgé de plusieurs années, lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Verset 2, Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Micmac, sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan, à Gibéa de Benjamin. Il envoya le reste de son peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins, verset 3, qui était à Geba, et les Philistins apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Verset 4, tout Israël entendit que l'on disait « Saül a bâti le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars, 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'orient de Beth-Aven. Verset 6, les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, ils se cachèrent dans des cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. C'était le sauve-qui-peut, mes bien-aimés. Il y a aussi les Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, mais qu'as-tu fait ? Saül répondit, mais lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, verset 12, on va dire ces deux versets, du 12 à 14, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Oh, la tannée que je vais prendre. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Samuel? Il est toujours en retard, c'est pas croyable. Il a dû louper le TGV, il aurait pu envoyer un SMS quand même. La raclée que je vais prendre. C'est alors que je me suis fait violence, tu sais, Samuel. J'ai pas fait de gaieté de cœur, hein. Et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, mais tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Saül, là, c'est l'exemple même de l'homme impatient. La situation est terrible, hein. 6000 cavaliers, donc, là, puis en plus, les tiens, tes soldats, tu regardes, ils sont tous, oh, d'un seul coup, t'aperçois que tu es tout seul. C'est souvent comme ça aussi dans les églises. Tu comptais sur tel ou tel frère, et puis tu t'aperçois que quand ça sent le roussi, c'est sauf qui peut, je dis pas, chacun pour sa peau et Dieu pour tout, c'est pas ça, mais en gros, souvent t'as dit, tu vas te retrouver complètement isolé, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, oh la tannée que je vais prendre, etc., etc. Mais Dieu a fait des promesses. Il a fait des promesses à Israël. Mais Saül est en train de regarder la réalité. On va se faire manger. On va se prendre une raclée à tout casser. Comment je fais? Bon. Et Samuel, là, tu ne peux pas compter sur les prophètes. J'ai toujours dit, moi, les prophètes, ils ne sont jamais à l'heure. Oui, il est où, ce gars encore? Ah, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Seigneur, hein, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, je vais. Et il va offrir un sacrifice. Il n'avait pas le droit. Autrefois, il y avait une onction royale et une onction prophétique. le roi s'occupait du gouvernement et tout ça, il travaillait en collaboration, bien sûr, avec le prophète. Mais tout ce qui était du sacerdoce, c'était au prophète de le faire. Et Dieu était là-dessus intransigeant, je veux dire, c'était l'ordre de Dieu. Et il avait une onction royale, il devait obéir à cela. Hein, et Saül, ben, il va se morfondre en attendant le prophète Samuel, qui n'est pas pressé apparemment, on est à la Gilgal. Saül est en retard, selon Saül, il n'a présenté aucune excuse en arrivant. Oh, tu sais, oui, excuse-moi, j'ai crevé là sur l'autoroute, oh, là, c'était non. Non, rien. Il est en train d'entrer, Dieu arrive, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as fait n'importe quoi. On verra tout à l'heure pourquoi il a dit ça. À un moment critique pour lui, Saül va refuser d'attendre le temps de Dieu. Et il est allé de l'avant, sans Dieu, et par conséquent, il va avoir une crise bien plus conséquente que ça. Et c'est pareil pour nos vies. Même quand ça va te sembler vraiment tragique, il faut, je vais agir, je vais... Et si le Seigneur t'a dit, ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas, Katel, n'agis pas. Laisse faire, Seigneur. Tu veux te mettre encore dans des situations encore plus compliquées. Je dirais par là, au travers de cet exemple, que le silence ou l'inactivité de Dieu, à un moment où nous en avons désespérément envie qu'il parle, on en a besoin, ou qu'il agisse, va servir de révélateur, comme en chimie, de la maturité spirituelle des gens, et c'est pour cela que Dieu permet des situations pareilles dans nos vies. Là, tu montres vraiment qui tu es. Si tu as une foi tranquille, assise en Christ, ou si toi le ciel t'aidera, oh, attendez, toi le ciel t'aidera, montre-moi le verset de la Bible, ça existe pas, hein. Par contre, il me dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est très différent, hein. Et toi le ciel t'aidera, ça c'est l'évangile des francs-maçons, hein, excusez-moi, hein. Non, Dieu n'a pas besoin de tes petits bras, hein. Il t'a fait collaborateur avec lui, oui, pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Mais il n'a pas besoin que tu l'aides. Hein. C'est pas seulement un grand architecte. Toi, tu es le copain du grand architecte, c'est pas ça. Hein. Exode chapitre 32, verset 1er. Exode chapitre 32, verset 1er. Regardez encore ce genre d'exemple. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre sur la montagne, il a dû s'assoupir, il doit faire encore une sieste, on le connaît ce Moïse, s'assemblait autour d'Aaron et lui dit, alors, t'as vu depuis le temps qu'on attend, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Si ça se trouve, il est allé faire de la planche à voile à Eilat. Ils ont dû avoir plein de raisonnements comme ça. On ne peut pas compter sur ce Moïse, vraiment. Hein. Aaron leur dit, bon, ôtez les anneaux d'or, hein, vous connaissez toute l'histoire, et ils vont faire un veau d'or. Et le lendemain, verset 6, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Hein, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On va dire, oui, mais ça, frère, c'était pour autrefois. Ils n'étaient pas très instruits, c'était un peu inculte. Hein? Mais c'est exactement le même schéma que nous vivons aujourd'hui en Occident. Jésus revient bientôt. Ah oui, on nous l'a dit déjà en 1935. Bon, on l'attend toujours. Hein? Il est où, hein? D'accord. Alors, en attendant, je vais me faire mon veau d'or. Ma Ferrari décapotable, mes skis blindés, mon motocross, mon avion, mon hélico, mon drone, machin. Je vais me faire des objets que je vais pouvoir idolâtrer grâce à ma technologie. Amusons-nous. Mais Dieu, une pensée pour Dieu. Pour Dieu, pourquoi faire? Ouais. Un peu de religion comme ça, pchit, ça nous aide à survivre. Assurance, oui, je donne mon petit cœur à Jésus, mais il ne faut pas qu'il m'en montre trop. Hein. Je vais lever ma petite main un jour dans une salle charismatique. Oui, je donne mon cœur à Jésus, mais attention, hein, Jésus, tu dois comprendre quand même que c'est moi, qui te donne ma vie. Hein. Donc, tu te demandes qui c'est le roi et qui c'est l'esclave. C'est vrai qu'on n'a plus le droit depuis 1789, c'est dur à comprendre. Hein. Et là, le veau d'or, dénommé le retard de Moïse, il va mettre en lumière simplement le veau d'or qui est dissimulé dans le cœur des enfants d'Israël. Mais oui, il s'était redescendu tout de suite, mais l'a confronté au temps. Mais il est où ce Moïse? On en a marre. Bon, on va se faire un Dieu, on est pressé. Le temps, et Dieu va faire surgir là, il ne parle pas. Et il a fallu que le veau soit fait tout de suite. Là, il parle à Moïse, et maintenant tu peux redescendre. Il fallait que ça serve de révélateur. Mais ce n'est pas toujours obligé. Le cœur humain n'est pas toujours, et peut, je voudrais vous dire ce matin, suivre une autre voie. Regardez le roi David, homme selon le cœur de Dieu. Il a fait des bêtises quand même, hein, mais Dieu regarde quand même à son cœur. Hein, il n'y a pas d'homme sans péché. Mais regardez ce qu'il y a de bon en lui, ce qu'il a plu à Dieu. David va être dans la même situation. Son fils le combat. Le roi Saül veut sa peau. Enfin, moi, il avait des prophéties, mais il n'avait que les prophéties. Il n'avait que des ennemis, quoi. Et il gérait serré. Hein. Il a fui à Engedi. Engedi, c'était l'ancien Di, hein, justement. Il était déjà à Di avant nous. Hein, Engedi. Et puis, il a tombé. Il se cachait dans le désert. Hein. Mais il avait des promesses. Il a pu dire, mais Seigneur, tu as prophétisé par la bouche du prophète que j'allais hériter d'Israël et ceci et cela. Hein. Et puis, il ne se passait rien. Et même son propre fils l'a combattu et tout. Il a vécu des années de désespoir. Et il est là dans le désert. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu étudie son cœur. Et au psaume 142, cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit t'a battu au-dedans de moi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Tu vois pas qu'ils en veulent à ma peau? Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout est perdu pour moi. Nul. Attendez, c'est un gars qui est en plein désespoir qui crie des trucs comme ça. Hein. Et il parle à Dieu. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage. Sois attentif à mes cris, verset 7, car je suis bien malheureux. Attendez, le gars, il est en plein désespoir. Il vit une situation tragique. Hein? Tire mon âme de sa prison. Psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Ouais, oh là là, ça dure un moment. Et je vous fais grâce. Du 144, du 145. À ce moment-là, comme Job, il discute avec Dieu, mais il ne se rebelle pas et il ne bouge pas de sa place. Il attend la délivrance qui vient de l'Éternel. C'est le Seigneur qui te sortira de ta situation. Il ne va pas aider Dieu à dire, bon, j'ai compris, Dieu, en fait, veut que je sois un homme d'action. Je vais aiguiser mon glaive, tata, on va aller à l'attaque de Jérusalem, on va rétablir la justice. Non, il s'attend au Seigneur. Ce que je vis, ce n'est pas juste. J'ai reçu l'appel de Dieu. Comme Joseph en prison. C'est la différence avec Moab, Joseph. Il va accepter le temps où Dieu va le mettre à la lumière devant tous. La délivrance appartient en un mot à l'Éternel. On va aller un peu plus loin. Regardez dans, et face à ses interrogations, ses délivrances, Dieu, et face à ses ennemis, eh bien, il va apprendre à gérer, à marcher. Chaque croyant va apprendre ça, à marcher à Noé dans des moments difficiles, avec un Dieu silencieux. Pour notre croissance spirituelle, c'est important. Vous n'avez plus que ça. Et je ne vous le cache pas, bien aimé, bien que de temps en temps, j'ai le privilège de vous enseigner, que moi-même, je vis ça. Vous le connaissez tous, pour la plupart, vous savez, et j'enseigne partout, je pense. Dieu vous a-t-il parlé hier? J'ai eu de la chance, hier, il m'a parlé. Il me fait un miracle pour moi. Un miracle, c'est un exauce en prière. Bon, c'est pas toujours qu'il fait des miracles. Un miracle, on se comprenne bien, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pas le faiseur de miracles. Moi, je fais aucun miracle, moi. Aussi, plutôt, demandez à ma femme. Enfin, bref, je préfère pas vous raconter les miracles que je suis capable de faire. Mais dans une chaîne de cause à effet, de n'importe quelle situation, à un moment donné, il te manque des maillons. Avec ce que tu as comme route, tu peux pas arriver à ce résultat-là. Ah, tu vas questionner le gars, mais comment tu as eu ça là? Mais tu avais une tumeur là, comment c'est possible qu'il y ait un problème maintenant? Le gars va te dire, mais j'ai invoqué le nom de Jésus. Oui, Jésus, moi je suis Bouddha, moi je suis Krishna, moi je suis toi. Hein, mais à part ça, rien. Pour lui, en tout cas, c'est clair. Avec les données qu'il avait, il ne pouvait pas hériter ces cinq miracles. À moins qu'il te manque des chaînons, c'est pas logique, c'est pas possible, et tu es obligé de constater la réalité. Eh bien, il y a des tas de miracles. Dieu nous fait pour nous, a fait pour nous, et vous en êtes témoin, des tas de miracles liés à sa fidélité. À tel moment, tu devrais t'écrouler. À tel moment-là, tu devais être cuit. À tel moment-là, il était parti, tu étais divorcé. Là, tu étais ruiné. Et puis, tu as invoqué son nom. Et il a retourné la situation que tu ne pouvais pas faire à ton avantage. C'est ça, un miracle, hein, lié à sa fidélité. Eh bien, chaque jour, je prends du temps avec lui. Hier, je parlais avec lui. Ce matin aussi, vous m'excuserez, ce matin, je n'ai pas eu le temps. Hein. Ça, c'est mon petit carnet de bord de chaque jour. J'espère qu'il vous a parlé hier. Moi, il m'a parlé, vous voyez, il m'a parlé du 22 au 29, j'ai vécu un truc important, il n'y a pas qu'avec les malades que j'ai, vous voyez, il me parle, je note, tu vois, il m'a parlé hier soir, j'ai pas eu le temps ce matin, je prépare le cul, mais je prends du temps avec lui. David, il écrivait les psaumes, il les chantait même, et toi, tu prends combien de temps avec lui? Le matin à 8h15, oh, Seigneur, tu bénis mes tartines, dépêche-toi, il y a le métro, je vais le louper. Bon, Seigneur, tu n'oublies pas ma petite augmentation, mon patron, salut là, à ce soir, Seigneur. Puis il arrive le soir, le soir, t'es là. Oh Seigneur, je sais, tu comptes pas les paroles. Tu connais même les paroles avant qu'elles sortent de notre bouche. Oh Seigneur, tu sais comment je suis fatigué. Oh, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va s'emparer de toi. C'est pas vrai? Bien-aimés, je condamne personne. Je sais dans quelle société de malades nous vivons. On est proche du retour du Seigneur. On est très proche. Regardez bien ce que je vous dis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme à l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse, avant qu'ils reviennent, ils n'en pouvaient plus. Ils devaient rester 400 ans en Israël. Ils sont restés 400 ans. Vrai ou faux? Faux. Ils ne sont pas restés 400 ans en Israël. Ils sont restés 430 ans. Oh non, mais frère, là, c'est avec la TVA, tu vas, faut te la jouer hors taxe, tu veux pas. Non, attendez, si je t'enferme en tôle et que je te dis, je te libère demain matin et que j'arrive dans 30 ans, peut-être tu vas plus jamais être le même. Hein. Oui, comment ça se fait? Mais Dieu était pas en retard, il avait suscité un homme, Moïse. Il lui a dit, viens ici, tu vas délivrer le peuple. Tada, il avait compris le gars, tada, il court, Zoro, tu sais, Rambo, il t'esquiche, le premier Égyptien qu'il voit, mais Dieu te demande pas de tuer ton Égyptien. Attends, oh là là, attends, lui, il va te choper, parce que Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Je vais lui apprendre ce qu'il a pas, ce gars-là, cet impulsif, la patience. 40 ans dans le désert avec des biquettes. Oh, les biquettes, tu verrais l'horreur. Viens ici, elle court dans tous les sens, à la fin, tu n'es plus jamais le même. Il n'arrive même plus à parler. Et quand il est là, Dieu lui dit, viens ici. Maintenant, tu es fin prêt pour moi, mais pendant ce temps-là, les autres, ils sont en train de galérer. Ils ramassent la boue. Il faut sauver les charges sociales et la mutuelle de l'Égypte. Et Bercy et tout, j'aime Bercy, que Dieu bénisse Bercy, hein, une bonne fois pour tout, oui, ça c'est sûr. Hein. Et puis, il faut arracher la paille pour faire des briques, jour et nuit, oh non, jour et nuit, ils n'en peuvent plus. Quand tu vas dire, on parle d'Égypte, tu verras, tous ils sont, oui, tout de suite, quand tu vas le payer ton confort et ton Occident, tu vas te payer jusqu'au trognon, tu étais, excusez-moi de parler comme ça, tu étais société judéo-chrétienne, et le pape, il a pleurniché pour qu'on fasse une petite mention chrétienne dans les statuts de Bruxelles. Ah là là, Dieu se relève les manches, il a rendez-vous avec la France parce qu'il l'aime. Il va te réveiller, il n'a pas envie de te perdre pour l'éternité. Tu vas te souvenir des prières de ta grand-mère, notre Père qui est aux cieux, que ton nom vient. Tu vas revenir vite à l'essentiel, tu as l'ordre de l'Égypte, ce que je vais en faire. Tu vas regretter l'Égypte amèrement, sa sécurité sociale, sa mutuelle et tout son bazar qui t'a fait bosser 20 heures sur 24, tu vas le regretter grave. Mais ça, c'est le Seigneur qui s'occupe des nations. Et là, on va voir, j'avance, on va voir que une partie du processus qui conduit à la maturité spirituelle, eh bien, va consister à marcher avec assurance dans les ténèbres. Regardez dans Ésaïe, chapitre 50. C'est important ce texte. Ça vous intéresse toujours, là, le message? Oui? Oui, on continue. Ésaïe, chapitre 50. Regardez ce que Dieu nous dit là. C'est important. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. C'est clair et net. Voici, verset 11, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Ah, c'est terrible ça. Quiconque manque de lumière, hein, qui marche dans les ténèbres, dans l'obscurité, qui se confie dans le nom de l'Éternel. Mais vous qui allumez un feu, bah, attendez, tout le monde la nuit a allumé sa petite lampe frontale pour ne pas rentrer dans un mur ou quoi que ce soit, quel péché y a-t-il à ça? Et quand Dieu parle là de marcher dans les ténèbres, il ne parle pas de situation de péché, hein, c'est pas ça. Il parle dans des situations que bah, c'est la nuit, tu ne comprends rien à ce qui t'arrive, tu vois plus clair. Et la tentation, et le feu, là dont il est mention, le feu c'est toujours le fruit de l'activité humaine. Je vais faire mon petit feu, je vais faire ma petite lumière pour essayer d'y voir clair, pour pas me perdre, etc., etc. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Non. Surtout qu'au verset d'avant, il t'a dit qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Il n'a pas dit qu'il allume sa petite torche. Hein. Et si tu fais ça, ben Dieu va te montrer que tu vas périr carrément, comme Saül, dans ton feu et dans tes solutions humaines bidons que Dieu t'a jamais demandé d'avoir. Ouais. Ici, les ténèbres, c'est pas le péché, mais c'est le territoire inconnu. Par exemple, Pierre, à un moment donné, il est là. Regardez Pierre. Pierre, il dit... Seigneur, si c'est toi, ben, ordonne que je marche sur l'eau. Il sort. Non, mais attendez, ok, arrêt sur image. Mais combien de temps il a marché sur l'eau? 3 mètres, 30 mètres ou 300 mètres? T'en sais rien. Mais ce que tu sais, c'est qu'à un moment donné, Pierre, c'était Pierre comme Philippe maintenant en Occident, ils ont pensé à tout. Assurance vie, assurance ceci, cela, on est pareil. Ta-da, on a tout sur Facebook, on a toutes les solutions. Sur Internet, ta-da. Il marche d'un seul coup. Ah, il enfonce. Ah, il a dit qu'il invoque le nom de l'Éternel. Ésaïe. Pierre va le faire. Jésus hein. Le soir était Philippe, qui s'en fait, tada, j'avais tout prévu. Je sors ma petite bouée en canard sur Internet, qui se gonfle automatiquement, tchou, et je coule pas. J'aurais coulé avec la bouée. C'est Jésus qui le retire de l'eau, territoire entre nous. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et là où vous en êtes, vous n'avez jamais vécu ça avant. C'est la première fois, votre foyer est en train d'exploser, vous êtes touché par une maladie grave, votre enfant est parti ou vous êtes désemparé. Invoque le nom du Seigneur et compte sur lui. Il est évident que tu n'abandonneras jamais. Pas savoir attendre la manière de Dieu et créer son propre feu par frustration envers les ténèbres. On va créer nos propres solutions. Le silence de Dieu nous force à grandir en confiance avec lui. Lorsque nous avançons dans l'obscurité, sans moyen de nous orienter, nous nous rendons compte qu'il est toujours proche, il est proche de nous tout le temps. C'est ainsi que nous développons notre propre histoire avec Dieu, la maturité. Apprendre l'art d'être suspendu dans le vide. Il semble souvent que Dieu attende jusqu'au dernier moment, dernier instant, pour voir si nous allons paniquer ou si nous avons confiance en lui. Je racontais souvent cette histoire aux enfants, aux préados. Un jour, quand j'étais à Grenoble, tout le monde connaît les œufs à Grenoble, hein, les bulles qui montent. Hein, et c'est un petit chemin qui passe entre les barres de rochers, et tu as les petites barres de calcaire. Un jour, c'est un ado qui part de nuit, mais il se fait prendre par la nuit. Et voilà qu'il est perdu, son chemin. Et puis, il est très consacré, il aime quand même le Seigneur. Il dit, Seigneur, montre-moi le chemin. Et le Seigneur, qui est un Dieu, qui répond rapidement aussi, de temps en temps, lui dit, écoute, mon chéri, il n'y a pas de problème. Tu vois là où tu es, il est dans les buissons, dans le noir, il voit le grenoble sans bâtoir. Saute dans le vide, c'est, tu es pas loin, tu verras, tu es pas loin du sol. Oh non, mais Seigneur, ça doit être diabolos, il veut que je meure, que je me suicide. Non, saute, je te promets, tu risques rien. Non, Seigneur, je veux. Mais une lutte, et à un moment donné, il saute, oh, ils entendent les buissons. Et puis il y a une branche, un buis qui sort comme ça. Il reste accroché par la chemise, ou par la bretelle du sac à dos. Ah, c'est Dieu qui m'a sauvé. Ah, c'est un coup de Satanas pour me détruire. Il fait une nuit noire, il a rien, il n'a pas de lumière. Seigneur, sauve. Alors toute la nuit, il va discuter avec Dieu. Oh Dieu, je vais mourir. Sauve. Seigneur, il lui répond même pas. Il lui a parlé une fois déjà. Sauve. Oh non, Seigneur. Il a confessé même des péchés qu'il n'avait pas encore fait, qu'il pensait faire, et tout ça, dans ces moments-là. Tu laisses sourire au hasard. Hein. Ah, il ne veut pas mourir, il ne veut pas arriver à Grenoble comme une omelette, comme une crêpe. Ah, sans. Et puis les jours se lèvent, Dieu répond toujours pas. Il s'aperçoit qu'il est à 20 cm du sol. Alors, bien souvent, bien aimé, nous vivons des choses qui ressemblent à ça. On se fait peur tout seul. Dieu n'a pas été dit, je te bénirai. Pourquoi tu doutes? Dieu parle qu'une fois. Et nous, là, on se fait des films, on est prêt à trouver des solutions. Il faut qu'il nous suspende par une bretelle, qu'on puisse plus bouger, pour qu'enfin, il puisse agir. Bien aimé. Là, notre maturité spirituelle va être mise à la lumière. Apprendre l'art d'être suspendu dans le vide. Il semble que des fois, il va attendre jusqu'au dernier moment. Et c'est un silence qui est mal compris. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est parfait en tout? Oui, amen, il est parfait. Hein, et bien, une des leçons de l'Évangile qui m'a toujours le plus impressionné, c'est que Dieu ne répond pas aux gens comme nous pensons que Dieu devrait le faire. Quand nous pensons qu'il devrait répondre, il est silencieux. Vous n'avez pas remarqué? Et quand nous pensons qu'il devrait intervenir, bien souvent, il reste inactif. Regardez, dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Tout le monde connaît cette histoire de cette femme de Tyr de Sidon. Verset 15, Matthieu chapitre 15, verset 21. La femme cananéenne. Jésus étant parti de là, sur Tyr dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées du cri. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne répondit pas un mot. Mais pourtant, il a dit, demandez, vous recevrez. C'est incroyable. Il ne répond même pas. Seigneur, c'est quoi ça? Il y a un problème, là. Il ne répondait pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent. Au bout d'un moment, il dit avec insistance, oh là là, revoilà. Oh là là, cette femme, enfin, bref. Hein. Elle crie derrière nous. C'est incroyable. Hein. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle va se prosterner devant lui. Elle aurait pu réagir. Elle dit, ça ne m'étonne pas, t'es bien un homme. Hein. Ah, tous des machos. Oh, mais excusez-moi, il y a des femmes qui l'auraient dit au jour d'aujourd'hui. Hein. Bon, des fois, ce que je n'ai pas entendu sur les hommes de Dieu. Hein. Oui, mais Seigneur, tu as dit pas mal. Hein. Elle ne se rebelle pas. Elle ne le prend pas comme une insulte. Seigneur, ce qu'on voit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens, ils mangent des miettes. Mais elle insiste lourdement. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux alors même. Mais Jésus savait très bien depuis le début ce qu'il allait faire. Mais ce temps d'attente, cette situation inconfortable devant lui, humiliante devant des hommes, elle était posée devant eux, a mis en lumière son cœur. Elle n'avait pas un cœur révolté. Elle s'attendait à Dieu, elle ne comprenait pas, mais elle attendait quand même la solution de lui. Elle n'est pas partie ailleurs, elle n'a pas allumé son propre feu, elle va dire, on ne peut pas compter sur les hommes, je vais guérir ma femme moi-même, je vais aller voir un sorcier. Après tout, Saül est allé voir une voyante. Elle a attendu le Seigneur, il agit pour elle. Il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament où des hommes vont attendre Dieu et sont déçus, il les a complètement oubliés. Là, il était trop pris, il était parti en RTT, il n'a pas. Ça n'existe pas. J'ai regardé mon Nouveau Testament, tous ceux qui se sont attendus à Dieu il est venu à leur secours tout le temps, des fois plus ou moins vite, mais tout le temps. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire de façon certaine. Et tous ceux qui ont loupé le coche, c'est ceux qui, après avoir patienté, attendu, se sont levés avant l'heure et ont fabriqué leur petite solution, la Saül, et ils se sont mis dans une crise encore plus grande. Il n'y a pas d'autre schéma biblique. Hein. Et regardons, on va aller un peu plus loin. Hein. Jésus voulait faire exprimer la foi de cette femme, et nous nous culpabilisons. Oh, Dieu ne m'aime pas. Ou peut-être j'ai trop péché, oui, ça doit être ça. Alors, si j'étais saint comme le pasteur, au moins, ça serait mieux. Hein. Regardez un autre exemple. Dans Jean chapitre 11, j'ai bientôt fini. Tenez bon. Jean chapitre 11. Oh, bien aimé, quelle que soit votre épreuve, soyez encouragés. Comptez sur le Seigneur, il ne vous laissera pas tomber. Jean chapitre 11, verset 5. Vous connaissez tous l'histoire. Il y avait un homme malade, à Lazare de Béthanie. Hein. Vous connaissez tous l'histoire de Marie, de Marthe et de Lazare. Hein. Les sœurs envoient Lazare était malade. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie, voilà, d'accord. Verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Hein, ben, et il l'aimait, il reste 2 jours de plus. Qu'est-ce que ça serait s'il ne l'aimait pas? On peut se poser la question, n'est-ce pas? Dimanche, 2 jours de plus. Et puis, un moment, il dit, bon, allons-y, c'est bon, on va y aller. Maintenant, c'est le temps d'y aller. Hein. Et puis, vous connaissez tous l'histoire. Hein. Bien sûr, il va arriver. Dès qu'il arrive, il laisse parler. Tout ce qu'il y a dans les cœurs ressort. Mais Seigneur, t'étais où? Mais t'étais où? Mais si t'avais été là avant, Marie qui l'aimait, qui écoute ses paroles. Mais mon frère ne serait pas mort. Son cœur sensible vibre un coup de poignard. Mais il a dit qu'il était la résurrection et la vie. Mais t'ai-je pas dit que je suis... Oui, mais quand même, si t'avais été là, il serait pas mort. Mais qu'est-ce que t'as fait pendant 2 jours? T'es venu en stop ou quoi? Fallait prendre le TGV. Il y avait une urgence. Il est mort, maintenant il sent déjà. Où l'avez-vous mis? Il ne fait pas de reproche. Mais on croit sans croire. Tu crois qu'il est capable de ressusciter ta situation morte que tu vis? Oui, mais il est parti depuis longtemps. Mais les médecins le donnent comme on compte les semaines, comme Hervé avec son frère cet après-midi. Tu crois vraiment qu'il est capable de faire ressusciter les situations mortes? Mais c'est pas qu'il est mort. Il a pris la verge d'Aaron, ce bout de bois sec, il l'a fait refleurir. Mais tu crois que c'est un conte à endormir les enfants d'il y a 2000 ans? Mais est-ce que tu crois que tu sers le même Dieu? Est-ce que tu crois qu'il t'aime autant qu'il a aimé Moïse, Abraham ou les autres? Mais bien sûr, mes bien-aimés, il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il ne change pas d'un millimètre. C'est nous qui avons besoin de nous rapprocher de lui et de comprendre. Ça nous dépasse complètement, l'amour qu'il a pour nous. Ça nous dépasse, ça c'est clair. Là, il va dire à Lazare, amenez-le-moi, vous l'avez mis. Il fait rouler la pierre. Lazare, sors! Oh, je te dis pas, les gars, qu'il devait assister à ça. Qu'est-ce qu'il a fait en attendant 2 jours? C'était son ami Lazare. Lazare était un type de sa propre résurrection. Lazare est le premier juif qui le ressuscite. Il s'est servi de Lazare, son ami, pour le mettre en expectative. C'était le type de ce qui allait arriver quand il ressusciterait. Pas mal. Là où les humains normaux, malheureusement trop normaux, comme moi, comme Marie et Marthe, voyaient un désespoir, hein, lui faisait une œuvre admirable. Et je voudrais vous dire ce matin, de la part du Seigneur, que dans ton désespoir, dans la situation où tu es, compte sur le Seigneur, ne doute jamais. Loue-le comme David dans des psaumes, chante pour lui des cantiques, même si pour l'instant tu n'as pas tes enfants autour de toi, ou il te manque le principal, ou tu as perdu ton emploi, ou ça sent le roussi, loue-le, adore-le, et laisse-le agir. Seigneur, tu lui dis quand même, excuse-moi, Seigneur, si je m'écroule. Bonjour les gars, j'ai plus que toi, mais ça fait rien, je t'aime, je m'attends à toi. C'est impossible qu'il ne vienne pas à toi, c'est impossible. Tu vas voir ce que tu as cru, tu vas le voir devant tes yeux. Je finis avec Jean-Baptiste, regardez Jean chapitre 11, verset 11, même type de situation. Après ces paroles, il leur dit, non, je me suis trompé là, j'en suis dans Matthieu chapitre 11, je parlais de Lazare là, Matthieu chapitre 11. Regardez Jean-Baptiste. Alors là, Jean-Baptiste, c'est pareil, c'est un cas d'école. Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus dit, de ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Attendez, Jean c'est le plus grand d'après Jésus. Mais on peut se poser la question, c'est incroyable, il n'a quand même rien fait. Si au moins c'était son cousin, pour son cousin, pour le sortir de la tôle où il était, il savait très bien qu'il allait se faire décapiter. C'est le plus grand, c'est son ami, c'est son cousin Germain, et il fait rien pour le sauver. Après tout, il pouvait le faire. Regardez, il a dit à Ponce Pilate, tu te calmes, hein, Et tu sais pas que sur un truc, je peux faire descendre 12 légions d'anges. Il pouvait sauver Jean-Baptiste. Pourquoi il l'a pas fait? Il a bien sorti Lazare du tombeau. Pourquoi il l'a pas fait, Jean-Baptiste? Tu dis que tu l'aimes, que c'est le plus grand, mais nous, ça nous pose des questions. Mais tu n'as rien fait pour te sortir de prison, Seigneur. Je parle à la façon des hommes. L'inactivité de Jésus n'est due ni à un manque d'amour pour Jean, ni à un manque de mérite de Jean lui-même. On est bien d'accord? Dans les évangiles, nous apprenons, mes bien-aimés, que le silence de Dieu ne signifie jamais que nous sommes rejetés ou mal aimés. Mais le silence de Dieu doit être compris à la lumière du plan rédempteur de Dieu pour son humanité. 2 Corinthiens 12, 12. Et la situation que tu vis, elle a un sens éclairé par cela. Et que cela puisse te réconforter en attendant le jour de la délivrance et de la solution finale que Dieu a prévue pour ton problème, parce qu'il va venir. 2 Corinthiens 12, 12. Paul va dire à un moment donné, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Ça aurait été quelqu'un de la jet set évangélique d'aujourd'hui, il aurait dit, tous les miracles que j'ai fait, les conventions, tous les nombres de bouquins, l'éliminer, laisser les machin, nanana, par une patience à toute épreuve. Une patience. Ah bon? Ah bon, c'est important ça, Seigneur? Ben, Paul dit, ah oui. Les preuves de mon apostolat, ont éclaté au milieu de vous par une pluie de miracles et de prodiges, de résurrection de mort et de spectaculaires. Non, par une patience à toute épreuve, par les signes des prodiges et des miracles. En un mot, nous allons servir de signes pour les non-croyants. Un jour, je suis policier. Je suis très coté dans mon travail. J'étais garde du corps de Faradiba et dans mon statut, j'étais payé, j'ai honte de vous dire ça presque, à rien faire, monsieur, j'étais payé à faire du ski à Val d'Isère et à grimper. J'aimais bien grimper. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu sors, etc., etc. Et les gars savaient. Et un jour, j'étais victime d'une injustice, une cabale dans mon boulot. Comme Joseph, mis en tôle par mes petits camarades moins diplômés que moi, j'étais prêt à me défendre. Il m'a dit, tu fermes ta bouche. Hein, quoi? Est-ce bien toi, Seigneur? J'ai posé une toison, une retoison, une dise de toison, c'était bien lui. Et donc, il fallait que je meure en silence. Seigneur, moi, ton humble serviteur. Bref, je me suis retrouvé rabaissé, mais j'étais accusateur. Hein. Je dis, Seigneur, comment? Le Seigneur m'a sorti. Il m'a dit, comme Joseph. 8 mois sont passés là, et je suis sorti de ma tôle, décoré par le ministre, adjoint de mon patron. Les gars, ils étaient sidérés. Un jour, je suis allé voir un des brigadiers qui m'a fait ce coup-là. Mais j'ai dit, mais c'est pas moi, c'est Jésus, j'étais un peu naïf. Il m'a dit, oui, je sais, on sait que c'est ton Jésus. Tellement ils étaient ulcérés. C'est Dieu qui te sort des ténèbres. C'est Dieu qui te sort de ta géole de Joseph, d'accord? Il est ta justice, c'est lui qui te justifie. Mais c'est très douloureux des fois. Mais tu apprends plein de choses. Et on va servir de signe pour nos croyants. Ils savent très bien ce que tu es porteur en toi. Seulement après être sorti de la police, des policiers sont venus me voir, et même chez moi. C'est quoi ce que tu crois là? C'est quoi ton évangile? En cachette, bien sûr, il y a les copains. Bien-aimé, tu ne pourras pas avoir de résurrection si tu n'acceptes pas ta croix. On veut tous être... Seigneur, tu me justifies devant tous. Oui, il va le faire, mais dans 15 ans. Mais en attendant, tu vas passer à la moulinette, tu ne seras plus jamais le même. Même pas mal. Écrasé, écrabouillé, si le grain ne meurt pas sous la meule, l'huile du Saint-Esprit ne va pas... Et des fois, ça va commencer par des gens... Mais je parle pour quelqu'un là. Écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un qui vit cette situation. Je ne veux pas savoir qui c'est, mais viens en voir après plus. Il y a quelqu'un, vous êtes, mais alors attaqué par votre propre famille, et ils se disent chrétiens en ce moment. Ils se disent chrétiens, ils sont en train de vous faire une vie. Mais alors, on a incroyable, vous êtes sous une pression, vous êtes au bord de claquer. Écoutez la parole du Seigneur pour vous. Hein. La Bible dit, je ne sais plus où, mais qu'une concordance, vous l'entrez chez vous. La Bible dit, vous voulez l'onction? Qui est-ce qui veut l'onction ici? La puissance de Dieu. Alors écoutez-moi bien. La Bible dit, le juste me frappe au visage. Oh! C'est de l'huile qui coule sur ma tête. Attendez, Sonia, de l'huile de bambaron. Nous, on voudrait, oui, Seigneur, parfumez la lavande, je préfère. Non, au citron, Seigneur. Le juste me frappe au visage, c'est de l'huile qui coule sur ma tête. Oui, vrai ou faux? Regardez l'exemple de Joseph, très vrai. Ces chers frangins, c'était les 12 patriarches d'Israël. Attendez, excusez-moi, c'était des meurtriers en puissance. Hein. La Bible dit qu'ils voulaient le faire mourir et te jettent dans une citerne. C'était des meurtriers en puissance. Et j'ai fait 13 ans de police, et je peux vous dire, je me suis mis des fois à la tête de Joseph, j'étais en tôle. Seigneur, ils ont tué le ministère, t'as vu ce qu'ils ont fait? Oh Dieu! J'étais jaloux de mes gerbes et tout, qui se prosternaient. Seigneur, tu leur mets des claques dans les côtes, les mains plates. Tu sais, ça laisse pas de traces. Tout le monde le sait, la police. Ah, heureusement que Dieu ne l'a pas écouté. Il va le faire pleurer derrière les rideaux quand il va les voir. Tu vas transformer Joseph, c'était ça le plus grand miracle. Capable d'aimer ceux qui t'ont haï, ceux qui t'ont persécuté. Bénissez ceux qui vous persécutent. Attendez, excusez-moi, c'est la Bible. Aimez ceux qui vous maltraitent. C'est plus facile à lire dans le bouquin qu'à vivre. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, des fois, c'est dur. C'est dur d'être incompris. Ceux de ta famille, eh bien, c'est pour quelqu'un ici au milieu de nous. Le juste frappe au visage en ce moment, c'est de l'huile qui coule sur ta tête. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur fait descendre son esprit sur toi. Ça va s'arrêter. Et je finis. Les pourquoi Dieu, on en aura toute notre vie. Les pourquoi Dieu, pourquoi Seigneur ça m'arrive, etc. Regardez ce que 1 Samuel chapitre 3 nous dit, et que vous puissiez partir avec ça. N'oubliez jamais Samuel. Lui aussi, il a été incompris, persécuté, rejeté. Samuel, aimé de Dieu pourtant depuis le début, mais dans la souffrance. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Regardez ce qu'il dit de Samuel. Samuel grandissait, comme vous tous, mes bien-aimés. Je pourrais dire ça de Jacques, de Marie-Jo, de Gilles, de chacun d'entre vous. Hein, vous grandissez, vous inquiétez pas, même si vous êtes dans une zone de turbulence ou vous êtes dégoûté de la vie. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Il prenait sa Bible chaque jour. Il écoutait le Seigneur et Dieu lui parlait. Tu vois, par exemple, là, c'est ma vie privée, mais tu vois, il m'a parlé le 12 janvier 2013. Tu vois, je peux même pleurer dessus. C'est plastifié. Il m'a parlé pour moi, pour mes enfants, etc. Je sais où je vais. Mais il reprenait, c'est le même code couleur, ce qu'il m'avait déjà dit le 6 octobre et le 7 octobre. Tu vois ? Oh oui, c'est venu l'écriture automatique comme les magiciens. Écoute-moi bien, le diable, il peut faire que des copies conformes. Il n'est pas l'original. Il est Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ésaïe, chapitre 40. Celui-ci écrira de sa main à l'Éternel, hein, Dieu parle. Et quand la Syro phénicienne a ramassé les miettes sous la table, qui est-ce qui croit que Dieu lui parle ici? Levez la main. Qui est-ce qui a plus de 10 ans de conversion? Ben, tant pis pour vous, vous avez le même âge. Frère, tu te souviens que Dieu t'a parlé, 10 ans de conversion, on est en 2016, c'était en février 2006. Le 4 février, il t'a parlé, tu te souviens? Oh, tu doutes, frère? Mais il te parle tous les jours. Tu pourrais nous dire ce qu'il t'a dit? Oh, frère, je ne suis pas Pentium 5, je ne me souviens pas de tout. Hein. La Syro-phénicienne, elle y comptait tellement, j'ai plus besoin de ces carnets. Mais pendant 3 ans, il m'a mis à part, en 1985. Il m'a dit, tu vas enseigner ça à toute la France, à toute ma jeunesse, les camps Béthanie. Béthanie, c'est la maison que Jésus aimait. Comment apprendre à écouter la voix de Dieu? Le diable, il peut te parler, toi, tu peux te parler à toi-même, et Dieu peut te parler. 3 ans, il va mettre ses disciples à part pour apprendre à écouter sa voix. D'accord? Méfiez-vous, même Satan peut se déguiser en ange de lumière. Hein? Toi, tu peux te parler à toi-même. Saül, il s'est parlé à lui-même. Bon, faisons-nous violence, on va faire le sacrifice. Mais oui, tu vas voir la différence entre les trois voix. C'est important dans une situation tragique d'entendre la voix de Dieu. C'est ça qui te sécurise. Quand je vois tous les chrétiens de Pentecôte au jour d'aujourd'hui qui font des festivals, des Woodstock chrétiens, ouais, on a eu des miracles, ça. Moi, je suis impressionné. Avec tous les Woodstock qu'il y a ici, avec tous les géants de foi qu'il y a, le pauvre Yémen, il se meurt sous les bombes, il voudrait se convertir. Demande-moi les nations, je te donnerai les nations pour l'héritage. Non, nous, on demande de l'or. Dieu fait descendre de l'or, des pétales d'or. Dieu, je pleure quand je vois l'état de mon pays. T'as la foi, t'es sécurisé, tu crois vraiment que 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche et que tu seras pas atteint. Alors qu'est-ce que tu fous en France? Pourquoi tu n'es pas au Yémen? Quand je vois tous les Maghrébins qui se disent chrétiens qui viennent en France, j'ai peine à croire. J'espère que c'était pas que pour le RSA. Oh non, il est odieux ce Martinez. La CMU ou quoi? Purée, tout seul lui-même va choisir des plus petits que toi, des plus pauvres que toi, des plus fauchés que toi. Tu veux voir des miracles? Et tu vois si Dieu marche pas avec toi. Il va dire, purée, pour une fois qu'il y en a un qui croit, tu crois pas qu'il va permettre que tu meurs tout de suite? Il a sauvé 12 paniers de croûtons de pain. Pas du pain, des croûtons. Et tu crois que toi, il va pas te sauver? Où est notre foi? Bien-aimé, vous voulez voir des miracles? Il faut vous balancer dans des situations complètement inextricables. Et humainement, c'est là que tu vas voir la joie de ton Père en action. Ton Père t'aime. Ton Père t'aime. Et je reviens à mon message de ce matin, écoutez Dieu dans le silence. David n'a pas péché. Il écoutait, il chantait des psaumes. Oui, mais il en a pris plein sa poire. Mais à un moment donné, les prophéties se sont réalisées. Il n'était pas condamné à régner que sur 300 petites gens, les 300 premiers qu'il avait. C'est l'école pire que Zizou dans l'équipe de France. Vous n'avez pas lu? Ils étaient tous là autour du feu. Et David y priait. Il a dit, vous allez attaquer, aïe, en avant, ils y vont. Les autres autour du feu, ils devaient se faire des merguez ou quoi, un petit barbecue, enfin, j'imagine un peu, c'est comme nous, hein. Ils y vont, allez, David, on y va. Bon, ils avaient Zizou avec eux, ils avaient gagné le match, tu vois. Allons-y. La paresse spirituelle, ils ne priaient plus. David priait, on suivait David. Mais Dieu ne veut pas que tu suives le pasteur. Il veut que toi, tu pries, tu dois suivre l'Éternel. Ce que je dis, tu dois contrôler dans la Bible. Il ne voulait pas qu'il soit attaché à David, mais à Dieu. Mais ils étaient venus paresseux. Et alors, il y avait 300 petites gens, la Bible nous dit, c'était tous des petits syndicalistes, des rebelles, des gens qui voulaient se battre, mais voilà. Et ils avaient Zizou avec eux. Purée, ils sont allés, ils se sont pris une tannée, il m'a tout cassé. Et David est revenu, les enfants, il dit, mais tu nous avais dit d'y aller. Oui, ils avaient besoin d'apprendre une leçon. À partir de là, ils ont commencé à prier tous. Hein. Vous comprenez? Dieu veut que nous prenions du temps devant lui, comme David. Et même dans votre souffrance, vous n'êtes pas délaissé pour compte, Dieu va vous en sortir, ne doutez jamais. Il m'a dit de vous le dire ce matin. Vous êtes aimé. Oui, mais les autres, ils n'ont pas la foi comme moi, ils ne souffrent pas comme moi. Attends. Tu ne connais pas leur fin et tu ne connais pas la tienne. Je préfère être à ta place qu'à la leur, s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Samuel s'enfermait, il ne laissait pas tomber la parole de Dieu par terre. Mais pourquoi Dieu? C'est très simple. Nous cherchons des informations. C'est pour ça qu'on va avoir des séminaires prophétiques, comme l'astrologie. Dis-moi ce qui va m'arriver la semaine prochaine. Et Dieu ne nous donne pas d'informations sur notre avenir. Dieu se sert de cette situation pour une relation. Il nous approfondit dans une relation avec lui. Nous ne cherchons des informations et Dieu se sert de ça pour une relation avec nous de plus en plus profonde. Mais jamais il vous laissera tomber, jamais, quelle que soit votre maladie, quel que soit votre sujet de souffrance. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tu es bon. Parce que toutes choses concourent ensemble, effectivement, au bien de ceux qui t'aiment. Ta parole est la vérité. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur, pour tout ce que tu nous apprends, année après année, dans notre cheminement. Pour nous qui rentrons maintenant dans l'âge des plus aînés, des plus vieux, Seigneur, des plus matures, eh bien c'est toi qui nous enseignes tout cela. Seigneur, nous ne sommes pas des laissés pour compte devant toi. Et je veux te prier pour tous mes frères et sœurs ici présents, tous ceux qui sont dans un désert de souffrance, qui comprennent plus rien à rien, c'est les ténèbres totales. Seigneur, que tu sois leur lumière. Quand tu vas appuyer sur l'interrupteur, quand toi tu vas allumer la lumière, alors ils seront fous et folles de joie, et leur joie sera notre joie. Seigneur, merci de les tenir dans un creuset spécialement juste pour toi. Nous te louons, nous te rendons gloire ensemble de tout ce que tu vas faire encore dans nos vies. Tu n'en as pas fini encore avec nos vies, Seigneur, nous t'en rendons grâce. Amen.